Bonsoir à tous. Donc, c'est maintenant le deuxième cours de théologie ascétique, commencé donc le mois dernier. Et je vais d'abord faire un bref rappel de ce que nous avons vu la dernière fois, en commençant par dire, plus exactement répéter, que l'ascèse, c'est une lutte. Je reprends très largement la terminologie de Père Dumitru Staniloae, donc dans son ouvrage que j'ai cité la dernière fois et qui a été traduit par le Père Jean Bobok et Romain Tal, qui a été traduit en français. Donc, quand on parle d'ascétisme, on parle de lutte incessante, sans répit, de lutte invisible. Bon, ça renvoie à la thématique paulinienne bien connue de celui qui est au stade, qui espère remporter la couronne de la victoire et qui s'entraîne tout le temps, régulièrement, avec force, avec détermination, avec vigueur. Tout ça, c'est des termes employé à des métaphores relevant du stade chez saint Paul, mais qui s'applique très exactement au combat ascétique. La force, la vigueur, la détermination, qui sont exactement le contraire de l'âme qui est faible, qui est changeante, qui renonce très facilement à son engagement. Là, au contraire, on est avec des notions qui nous renvoient avec aux moyens qu'il faut employer pour espérer, parce que ça dépend de Dieu, espérer remporter la victoire. Alors bien sûr, rien n'est possible sans l'aide de Dieu, rien n'est possible sans l'Esprit-Saint, mais la décision initiale, l'Esprit agit secrètement en nous, mais la décision initiale, elle nous est demandée, elle nous appartient. J'avais cité les mots que l'on trouvait chez différents auteurs, notamment celui du petit opuscule que je vous recommande, qui s'appelle « Le chemin des ascètes », de Tito Colliander, que l'on trouve traduit et édité par le révérend père Archimandrite de Placide de Seille. Donc on peut se procurer au monastère Saint-Antoine-le-Grand ou au monastère de Solan ou au monastère de Pérelli à Terrasson-la-Ville-Dieu. Voilà donc les mots, c'était à peu près cela. Aujourd'hui, je commence. Devant toi, Seigneur, je dis, aujourd'hui, je commence. Et on ne se retourne pas en arrière à partir du moment où on a dit, aujourd'hui, je commence. Parce que comme il est dit dans l'évangile de Saint-Luc, celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc, je rappelle, puisque ça a déjà été dit, mais c'est important de garder ça en mémoire, que tout commence par la vision de sa propre réalité humaine. Si je dis, évidemment secrètement préparé par l'Esprit, mais si je dis par ma libre et propre volonté, aujourd'hui je commence, je peux le faire parce que je constate l'état effrayant de ma propre réalité humaine, qui est une réalité de péché, de passion, de désordre, de tout ordre. Donc, c'est en regardant sans phare cette réalité humaine dans laquelle je suis, ma propre réalité humaine, que je peux prononcer cette parole. Aujourd'hui, je commence. Ça nous renvoie à la thématique évangélique du fils prodigue, hein, le fils prodigue qui tombe très bas et Il ne pouvait pas tomber plus bas qu'à un moment donné, puisqu'il désirait même manger la nourriture des porcs, et puis il prend la décision de retourner vers la maison de son père. C'est bien de ça dont il s'agit dans la lutte ascétique au point de départ. Je prends la décision, avec l'aide de Dieu, de retrouver le chemin de ma première nature. Je suis dans une nature surajoutée, celle des tuniques de peau du péché, et je désire profondément retrouver le chemin de ma première nature, celle vers laquelle le Christ veut me conduire. Et c'est tout ça qui est sous-tendu par la thématique de la lutte et de la vie ascétique. Parce que le mal, constitue autant de parasites en nous, de désagrégations intérieures et parasites. Et c'est pour ça que lorsque l'âme, notre âme, se découvre telle qu'elle est, c'est pour cette raison qu'elle aspire réellement à la miséricorde divine. Parce qu'elle ne peut plus, voyant dans quelle misère elle se trouve, elle ne peut pas en rester là, elle peut pas, parce qu'elle est habitée par une soif et un désir d'absolu. Et voyant cette misère dans laquelle elle gît, elle désire autre chose et elle se tourne vers la miséricorde divine. Elle implore la grâce. Elle implore la grâce et elle veut se retourner vers Dieu. Alors bien sûr, cette lutte ascétique, elle suppose qu'il y a une élévation graduelle avec l'aide de Dieu, mais tout n'est pas acquis comme ça dans un simple mouvement. C'est une lutte continuelle qui n'a pas de fin jusqu'à notre dernier jour, en fait. Parce que le danger de la désunion intérieure, le danger de la désagrégation, le danger qui est toujours réel parce que l'orgueil va se nicher dans des endroits dont on n'a même pas souvent idée, ce danger nous guette constamment. Vous savez, il est représenté par... j'ai personnellement le souvenir de fresques d'églises, de monastères en Moldavie, où on voit la représentation de l'échelle sainte de Saint Jean Climac, et on voit donc les moines qui gravissent les échelons de cette échelle, qui sont autant de degrés qui nous mènent de la terre au ciel. Et puis, on voit à un moment donné un moine chuter, d'autant plus lourdement qu'il est monté au plus haut. Mais on est toujours, aussi haut que l'on monte, mais toujours menacé par l'orgueil qui, plus on monte haut, plus il prend des formes subtiles, évidemment. Au bas de l'échelle, il a des formes grossières, mais en haut, il a des formes extrêmement subtiles et il peut nous faire chuter d'autant plus lourdement qu'on est monté au plus haut. Bien sûr, cette représentation, elle est monastique, mais elle concerne tous les fidèles chrétiens, je le disais, parce que la loi spirituelle de l'Évangile, pour reprendre une expression de saint Marc Lacette, elle est pour tous les chrétiens, quel que soit leur état de vie dans le monde, et pas seulement pour les moines et les moniales. Alors, cette élévation spirituelle, cette élévation graduelle, elle est inséparable de l'humilité, de la recherche et de l'accomplissement de l'humilité en nous. Et sans ce climat d'humilité, il n'y a pas de vie ascétique possible. Il n'y a pas de réalisation dans ce domaine possible sans ce climat d'humilité. Saint Antoine le Grand disait d'ailleurs au moment de sa mort, « Je n'ai même pas commencé la pénitence. » Et donc c'est le retournement de l'âme, c'est la métanoïa, c'est la quête d'un autre état d'âme. Cette humilité, elle n'est pas exaltation du néant, hein, c'est pas une espèce de macération morbide qui reviendrait à une je ne sais quelle exaltation du néant. C'est au contraire quelque chose d'éminemment positif, d'éminemment joyeux, mais de l'ordre de la vraie joie, pas de la joie de façade, de l'ordre de la vraie joie, celle selon Dieu, celle où on est sûr, où on mesure que vraiment l'Esprit divin est en nous, parce que on éprouve cette joie dans le cœur. La joie dans le cœur, la vraie joie dans le cœur, c'est la preuve que l'Esprit divin nous habite. Et ce cheminement d'humilité, bien sûr, il est inséparable de la vie ascétique. Et cette humilité, bien sûr, elle constitue en nous une puissance qui détruit tout esprit de ressentiment, d'égocentrisme, parce que elle déplace l'axe de notre vie, l'axe de notre vie en Dieu, et non plus centré sur nous-mêmes. Vous savez que l'homme européen, l'homme de l'humanisme européen, comme le dit fort bien Saint Justin le Nouveau, il est centré sur lui-même. Il est à lui-même la mesure de toute chose. Ben là, c'est l'illustration parfaite de l'égocentrisme. C'est la manifestation parfaite que d'un homme qui est emmuré dans la figure de son propre moi, qui est emmuré dans sa déchéance. Et c'est ça que la société de ce monde déchu exalte, et on sait où ça mène. Bon, là, c'est totalement autrement. Par ce chemin d'humilité, l'axe de notre vie est remis dans sa véritable orientation, c'est-à-dire vers Dieu. Vers Dieu. Et dans la lutte, donc, l'attention est attirée vers la source spirituelle du mal. Car le péché, il est d'abord dans l'esprit. Hein, le péché, bien sûr, nous savons, nous allons le voir, il se traduit en acte, il s'accomplit en acte au moyen des sens, puisque l'homme est un composé esprit, âme, corps. Donc, il a des sens corporels qui lui permettent d'accomplir le péché, mais le péché est d'abord dans l'esprit avant de connaître une traduction dans les sens corporels. Donc, la source de ce mal, c'est ce qu'on appelle la philautia, la philautie. Cette philautie, c'est l'amour de soi, hein, qui est l'amour propre, qui est la source des différents péchés, qui est source de notre chute, qui est source de tout péché. C'est ce que Adam, écoutant la suggestion du serpent, a éprouvé, d'où l'héritage de la nature déchue. Donc, j'avais dit également que la cèse, la lutte ascétique, elle établissait une structure hiérarchique dans notre nature. Autrement dit, elle appelait la maîtrise du spirituel sur le matériel, sur le corporel, sur ce qui lui est inférieur. C'est-à-dire que le corporel est appelé à être servant du spirituel. Et j'avais rappelé ce que disait l'apôtre Paul, si l'âme est spirituelle, tout l'homme est spirituel, si l'âme est corporelle, tout l'homme est corporel. tout l'homme est chair, puisque saint Paul parle de chair, non pas dans le sens du corps, le corps il est créé par Dieu, donc il est bon par nature, au moins dans la première nature, mais donc on n'est pas du tout là dans un discours de type gnostique ou néoplatonicien où l'âme est dans une prison qu'est le corps. Non, l'homme est créé avec un corps, donc ça a été voulu par Dieu, et Dieu a dit dans son acte de création que cela était bon. Tout ce qui est créé par Dieu est originellement bon. C'est l'homme qui le souille, c'est l'homme qui le dégrade, qui le désunit. Mais la création de Dieu au départ, évidemment, elle est bonne, puisqu'elle vient de Dieu en qui il n'y a pas l'once, en qui il n'y a pas l'ombre de mal. Donc il y a une hiérarchie. Ceci nous amène à la première étape de cette lutte ascétique. J'ai rappelé que le père Dumitru Staniloae parle de deux phases, d'une phase active et d'une phase réceptive. La phase active, c'est l'homme qui agit pour se purifier, pour se mettre en état de recevoir. Et la phase réceptive, c'est l'Esprit, c'est le Christ qui agisse en l'homme. Voilà, donc ça c'est très important à garder ça en mémoire, ces deux phases qui sont décrites par le père Dumitru. Et quelque chose d'ordre intellectuel, ce que dont parle le père Dumitru. C'est quelque chose de tout à fait expérimental, ces deux phases actives et réceptives. Si nous accordons quelque importance à cette lutte ascétique, nous savons que avant que le Christ, par l'Esprit, agisse en nous, eh bien, il faut nous rendre capables de cette action divine en nous. Il faut nous rendre en état de réceptivité. Et pour être en état de réceptivité, pour qu'il agisse en nous, eh bien, il faut nous purifier. Il faut nous défaire des passions et acquérir les vertus. Alors, pour autant, j'avais fait remarquer, à la suite de Père Dumitru d'ailleurs, qu'il ne faut pas séparer arbitrairement ces deux phases. Il n'y a pas un temps dans notre vie où nous nous sommes complètement débarrassés de nos passions et où nous avons complètement acquis les vertus. Sinon, la parole de saint Antoine le Grand, le père des moines, que j'ai cité il y a quelques instants, n'aurait aucune valeur. Or, elle en a une. Et donc, la phase réceptive, tout ça, il y a aussi une interpénétration. Mais il y a quand même deux grands moments. Il y a cette phase active et cette phase réceptive. La première dépend de la volonté de l'homme. Or, le problème dans la lutte ascétique, c'est que notre volonté, elle est faible. Elle est faible. Parce que nous sommes désunis, désagrégés par le péché. Tout est désordonné en nous. Et nous avons une volonté faible. C'est pour ça que nous demandons, parce que tout ça est inséparable de la prière, tout ça est inséparable des moyens de salut que le Seigneur donne à son Église, bien sûr. On n'est pas là en train d'affirmer, comme par exemple Pélage le faisait, que la grâce c'est quelque chose de totalement extrinsèque à l'homme et que c'est un petit plus parmi d'autres choses, mais que tout dépend de la volonté et de la force de l'homme. Non, bien sûr, tout ça s'accomplit dans la prière et dans tout ce que le Seigneur a donné à son Église, dans les mystères qu'il a donné à son Église, dans lesquels nous entrons dans la vie ecclésiale. Saint-Baptême, la réception des dons du Saint-Esprit, la communion eucharistique, le viatique pour la vie éternelle, la nourriture céleste, la manne céleste qui nous est donnée dans ce monde pour cheminer vers l'autre. Tout cela, bien sûr, on ne peut pas en faire abstraction. Mais néanmoins, ce qui est important de souligner ici, c'est que dans cette phase active, la volonté de l'homme, c'est quelque chose de très important. Très important. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de l'homme. Il agit avec l'homme. Ça, c'est la synergie, c'est l'affirmation constante de la théologie orthodoxe, de la synergie. On n'est pas du tout là dans des schémas augustiniens. Et on est dans un schéma où la grâce agit avec l'homme, en synergie avec la volonté humaine. Parce que nous sommes appelés à accomplir la volonté du Christ, à ce que la volonté du Christ agisse en nous, et donc il faut nous préparer. Parce que le Christ, c'est un maître exigeant. Le Christ, il ne veut pas régner avec quelqu'un d'autre en nous. C'est ou lui tout seul, ou c'est les idoles qui nous habitent dans la nature déchue, parce que si le Christ ne règne pas en nous, nous sommes habités par des idoles. Qu'est-ce que c'est que ces idoles? Ce sont nos passions. Nos passions, c'est autant d'idoles qui nous habitent, parce que nous les entretenons, nous leur rendons un culte. Puisque si nous ne les combattons pas, elles nous habitent, nous leur rendons un culte, elles sont incapables d'assouvir notre désir d'absolu, parce que tout ça, il y a un retournement. Au départ, si vous voulez, ces passions, ce sont des énergies positives que le Seigneur a mis en nous pour aller vers lui. Hein ? Adam, il avait ces énergies positives en lui qui lui permettaient d'être tourné vers le Seigneur et de monter vers lui. Et lorsque, par la transgression, ces énergies se dégradent en passions, eh bien, l'homme de la nature déchue, il absolutise ses passions. Il est toujours habité par ce désir d'absolu, parce que c'est dans sa constitution. Il y a, dans tout homme, si dégradé soit-il, un désir d'absolu. Parce que nous avons été créés pour la vie, pas pour la mort. Donc il y a un désir d'absolu. Mais évidemment, dans le cadre de la nature déchue, ce désir d'absolu, il prend des chemins totalement contraires à celui que le Seigneur veut pour nous, celui qui nous indique, celui que le Christ est venu nous manifester. Voilà, donc, la première étape, cette étape active, comme le dit le père Dumitru, c'est une étape de purification. Cette étape, elle vise un état passionnel, pathos, désir immodéré du sensible. Et cette étape, eh bien, c'est une étape de retournement, de lutte ascétique, de métanoïa, qui doit nous conduire, avec l'aide de Dieu, jusqu'à la racine de nos passions. Parce que, autre chose que nous pouvons constater expérimentalement, c'est que bon, nous allons nous confesser au prêtre, au père spirituel, et nous confessons, nous devons le faire sans détour, sans chercher de justification, parce que de toute façon, notre responsabilité est totalement engagée. Donc, nous n'avons pas de circonstances atténuantes. Donc, c'est pour ça que, devant l'icône du Seigneur, nous disons les péchés que nous avons commis. Et évidemment, le prêtre, le père spirituel, exerce une médecine spirituelle qui doit nous amener à être de plus en plus conscients de pourquoi nous commettons sans cesse ces péchés. Pourquoi ces péchés reviennent souvent ? Vous savez, nous recevons la grâce du pardon en confessant nos péchés. Le Christ nous pardonne. Le Christ, il pardonne 70 milliards de fois, 70 milliards de fois 7 fois, comme on dit. Donc, il pardonne sans cesse à celui qui, d'un cœur sincère, confesse ses péchés. Mais celui qui confesse ses péchés, comme il a une volonté qui manque de fermeté, souvent, il recommet ses péchés. Il est entraîné à les recommettre. Or, la lutte ascétique, elle a pour but, justement, avec la guidance de la médecine spirituelle, le père spirituel, il est là, parce qu'il est plus avancé que nous, donc il est là pour nous guider dans ce chemin. Il n'est pas là pour nous dominer, il est là pour nous guider dans ce chemin et nous conseiller, donc, d'exercer une thérapie spirituelle au nom du Christ. À travers lui, c'est le Seigneur qui nous parle et qui nous donne des moyens de progressivement guérir. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la confession, ce n'est pas autre chose que d'aller au médecin. On va au médecin céleste. Le Seigneur, c'est le thaumaturge des cieux. Donc, quand on va au médecin, qu'on souffre d'une maladie, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, voilà, docteur, je souffre de tel et tel mot. Bon, le médecin, il nous interroge. Il va plus loin, hein, parce que on n'est pas nous-mêmes spécialistes. Donc, il nous interroge et il va chercher ces mots et la racine de ces mots et il va donner des ordonnances. Mais dans le domaine spirituel, c'est la même chose. On est guidé par le Christ, le Père spirituel étant son instrument, et l'objectif, c'est notre guérison. Et la lutte ascétique, justement, c'est aussi de monter progressivement jusqu'à la racine de nos péchés. Pourquoi cette répétition de nos péchés? Parce qu'il y a une racine spirituelle à tous ces péchés. Vous savez, tout commence dans l'esprit. Hein, comme je l'ai dit, tout commence dans l'esprit et se traduit au moyen des sens. Les sens, ils sont serviteurs à ce niveau-là. Donc ils vont accomplir ce qui est d'abord pécamineux dans l'esprit. Hein. Donc ils vont être dans une situation de serviteurs qui permettent l'accomplissement dans les faits de ce qui est conçu plus haut. En ce sens, donc, les passions, c'est un mouvement contre nature. J'ai dit tout à l'heure que dans la première nature, l'homme est créé avec des énergies, c'est dans sa constitution en tant que créature, qui lui permettent d'être orienté vers Dieu, qui lui permettent de monter la garde de l'esprit, d'avoir une attention spirituelle, d'être vigilant, d'exercer ses énergies pour aller vers son Créateur, et tout ça par la transgression et dégradé en passion. Donc, ces passions, elles procèdent d'un mouvement contre nature. Ça, les pères sont unanimes là-dessus. Par exemple, c'est dit dans les stromates la deuxième stromate de Clément d'Alexandrie. C'est une perversion de l'ordre voulu par Dieu, cette perversion qui est une déformation du désir premier de l'homme de monter vers Dieu, une dégradation dans les passions. Autrement dit, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que cette chute, cette transgression qui a pour résultat l'inscription de l'homme dans une nature déchue, corruptible, mortelle, cette chute, elle s'apparente aussi à une immersion de l'homme dans le sensible, un enchaînement de l'âme à la matière. Donc c'est une réduction considérable de la dimension de l'homme créé par Dieu. C'est vraiment une chute, une descente. Et évidemment, tout cela interrompt la communion de l'homme avec Dieu. Dieu lui devient complètement extérieur, et au contraire, les passions lui deviennent intérieures, et s'identifie en quelque sorte avec les esprits ténébreux qui nichent dans le cœur de l'homme. Parce que, évidemment, ces passions, elles ont pour source les esprits ténébreux. Hein. Vous savez, le Seigneur qui interroge dans l'un des récits, puisqu'il y en a deux, dans l'un des récits évangéliques sur l'homme au pays des Gadaréniens, et le Seigneur, pour commencer une thérapie de guérison pour cet homme qui dormait dans les cimetières et qui manifestait beaucoup de dérangements, il lui dit « Quel est ton nom ? Quel est ton nom ?» Et Satan, par la bouche de l'homme, répond « Mon nom est Légion. » Ça veut dire que les passions qui nous habitent, ce sont des légions. C'est une légion. Avec un chef d'orchestre, un commandant, qui va mettre en avant telle ou telle cohorte qui compose la légion selon les circonstances, selon l'âge de la vie de l'homme, etc. Donc ce sont des légions. Ces passions sont nombreuses. Et elles sont solidaires entre elles, comme nous allons le voir. Donc, la 16, la lutte ascétique, elle a pour but de, justement, d'extérioriser les tendances déifuges, de libérer l'homme du monde, de ce monde dont parle Saint Jean, et qui est ce monde qui est en révolte contre Dieu. Et de nous libérer de ce relâchement de notre mémoire, de cet attachement, comme le dit Saint Marc Lacette, de cet attachement aux suggestions impures, de ce penchant au consentement au péché. Ça, c'est très, très, très important. Voilà quelques caractéristiques de cette lutte ascétique, dont la première étape, si j'ose dire, qui est cette étape active, qui est cette étape de purification, de lutte contre les passions, qui est quelque chose qui n'est pas seulement négatif, mais qui est quelque chose de positif, parce que quand on lutte contre les passions, c'est en vue de l'acquisition des vertus. Et c'est par l'acquisition des vertus, nous disent les pères, nous disent tous les pères de la tradition ascétique, à commencer par, bien sûr, la glorieuse légion des pères du désert d'Égypte, mais aussi des pères de tous les temps, jusqu'à nos jours, hein, bien sûr, puisque nous avons, par la grâce de Dieu, des pères spirituels à toutes les générations, dans l'Église orthodoxe, eh bien, c'est par l'acquisition des vertus que nous pouvons espérer accéder, purification des passions et acquisition des vertus, que nous pouvons accéder, espérer, être en état, donc, de réceptivité pour l'action de Dieu en nous. C'est par les efforts ascétiques que nous sommes amenés à purifier notre nature, à la débarrasser des penchants vicieux, puisque le péché, c'est le vice. Hein, donc voilà, il faut s'en débarrasser. Mais c'est pas seulement cet aspect négatif qu'il faut retenir, c'est en vue d'acquérir des penchants vertueux. Donc, purification, acquisition des vertus. Ça, c'est le résumé de cette première phase, qui est la phase active dans laquelle la volonté de l'homme est totalement engagée. Si elle n'est pas totalement engagée, c'est même pas la peine. Je veux dire, il ne se passera rien. Bien sûr, notre volonté est faillible, bien sûr, mais le Seigneur le sait. Donc, si nous le prions, si nous l'invoquons, il vient à notre aide parce que nous sommes faillibles, nous sommes faibles, nous sommes capables de petites avancées et de beaucoup de recul en arrière. Mais en tout cas, il faut toujours demander la force de la volonté qui est absolument indispensable dans cette première étape de purification des passions et d'acquisition des vertus. Autrement dit, ça veut dire que l'ascèse, elle suit un chemin, une voie qui est déterminée, qui obéit à une orientation, qui obéit à une orientation, c'est-à-dire que c'est un chemin qui nous mène d'un état A à un état B, c'est-à-dire vers Dieu. Hein. La finalité de ce chemin, c'est la déification. Donc c'est ce qui nous conduit vers Dieu, ce qui nous conduit à la restauration de notre véritable nature, sachant que nous ne pouvons pas prétendre, personne ne peut dire « ma première nature est restaurée hein, ». Bien sûr, c'est un mouvement qui engage toute notre vie dans ce monde et qui n'a de cesse dans ce monde. Parce que sinon, on retomberait dans le manque d'humilité et sa représentation iconographique de la chute au dernier degré de l'échelle, de la chute dans les ténèbres. Alors, ça suppose... Bon, ça veut dire que d'abord, il y a une discipline pour ce cheminement, qu'il y a le principe de la foi, qui est à la base, bien sûr, ça, on n'en fait pas l'économie, bien sûr, parce que c'est pas une technique, c'est... Bien sûr, il y a des moyens qui sont enseignés par la tradition ascétique, mais je dis, c'est pas une technique, dans le sens que vous savez, les Occidentaux, à l'heure actuelle, qui sont... il y a des fausses spiritualités dans le monde dans lequel on vit qui sont le pendant de la toute-puissance technique de l'homme qui agit sur la nature et qui prétend, d'où tout le développement du développement personnel et tutti quanti, qui prétend que dans certaines formes dites de vie spirituelle, qui n'en sont pas, parce que une vie spirituelle sans Dieu, c'est une mascarade, c'est une triste pantalonnade. Eh bien, dans ces formes-là, tout repose sur la toute-puissance de l'homme. Donc on met en avant des techniques, et on se cause de techniques extrême-orientales ou autres. Bon, là, ça n'a rien à voir avec ça, la lutte ascétique dans la tradition de l'Église orthodoxe. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais il y a des moyens à mettre en œuvre, bien sûr, mais qui ne reposent pas sur l'exaltation de la toute-puissance technique de l'homme. Au contraire, ça doit reposer à la fois sur l'humilité et sur une raison, comme le dit le Père Dimitrios Staniloé, sur une raison solidement fondée. Dans ce sens-là, d'ailleurs, rien à voir, ce cheminement ne s'apparente pas à des états de confusion affective, d'exaltation affective, dans lequel nous rentrerions selon notre bon plaisir. Aux exaltations affectives succèdent des chutes d'autant plus douloureuses. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est bien au-delà, ce cheminement est bien au-delà de toute affectivité psychologique. Hein. Et le père Dumitru nous dit fort justement que la voie ascétique, dans chacune de ses étapes, est rationnellement affectée à sa place. Parce que, il ajoute, l'intelligence doit franchir l'épreuve de connaissance des raisons logoï, les logoï, qui sont à l'œuvre dans la création. Et là, le Père reprend une terminologie que nous trouvons chez saint Maxime le Confesseur, à la fois dans les Ambigua et dans les questions à Thalassios. Et il ajoute, le Père Dumitru, que c'est seulement une fois cette phase dépassée, une fois qu'elle s'est appropriée ses raisons, pour voir au-delà qu'elle pénètre, cette raison de l'homme, qu'elle pénètre dans la lumière de l'union et de la connaissance mystique. Étant donné que cette phase de connaissance des raisons est elle-même un degré de l'échelle ascétique. Alors, l'ascèse en tant que chemin est exigeante, très exigeante, bien sûr. Elle n'est pas une technique artificielle et unilatérale qui générerait à partir d'elle seule l'expérience de l'union avec Dieu. Parce que si tel était le cas, comme je l'ai dit, ça reposerait sur l'orgueil humain. Ça n'aurait aucun intérêt, aucune efficacité. Ce serait une voie de perdition. Hein. Ce serait une voie qui nous serait... Ça, c'est une voie qui est guidée, pour reprendre une terminologie de saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, la première, c'est une voie qui est guidée par le Fils de la perdition. Hein. Parce qu'elle repose sur la toute-puissance de l'homme et sur la confiance dans des moyens techniques, entre guillemets, nécessaires à l'ascension spirituelle, à son ascension spirituelle. Donc rien à voir avec tout cela. Cette lutte ascétique, exigeante, très exigeante même, donc qui réclame l'assiduité dans la prière et le secours de Dieu, qui fait que nous devons appeler sans cesse le secours de Dieu. Elle commence par la lutte contre les passions. Les passions, c'est le plus bas degré de l'être humain depuis sa chute. Autant son degré antérieur était fait d'élévation devant la face de Dieu, autant là, avec la chute, c'est le plus bas degré où il peut être, où il est parvenu. Pourquoi ? Parce que les passions, elles ont une propriété remarquable, si j'ose dire, c'est qu'elles sont une dépossession. Elles constituent une dépossession, elles constituent une aliénation. Par les passions, nous sommes en dehors de notre véritable nature, de notre être véritable. Nous sommes en dehors de ce qui constitue le cœur même de notre hypostase en tant qu'être créé, et nous sommes esclaves de nos différents déterminismes. Voilà. Donc, c'est vraiment une dépossession. Autre propriété de ces passions, c'est, je l'ai évoqué, résumer en disant qu'elles annihilent notre volonté, ou en tout cas la dégradent très fortement. Elles font que notre volonté est faible, est faillible, elle est sans force. Et justement, la lutte contre les passions, eh bien, elle suppose l'acquisition de la force de la volonté, et donc par le secours de Dieu également. C'est-à-dire qu'il faut que notre volonté retrouve sa force. Le Seigneur, si nous lui demandons avec avec force, voilà, pas d'autre mot employé, eh bien, le Seigneur va nous donner de la puissance à cette volonté. Parce que cette volonté doit quitter sa versatilité, sa faiblesse, son égarement. Elle doit être tendue vers le but où nous conduit la lutte ascétique. Sans cette force de volonté, rien ne peut se passer. Autre propriété de ces passions, c'est qu'elles manifestent une soif que rien ne peut étancher. C'est pas une affirmation d'ordre intellectuel, ça, c'est une affirmation tout à fait expérimentale. Nous expérimentons en donnant satisfaction à nos passions, nous expérimentons jour après jour que ces passions ne peuvent étancher notre soif d'absolu. Nous avons l'illusion que ces passions peuvent satisfaire notre soif d'absolu. Mais comme la satisfaction des passions entraîne ce que Saint Maxime l'a très bien vu, Saint Maxime le Confesseur, entraîne la douleur, parce que les deux mouvements sont liés, eh bien, nous mesurons jour après jour que ces passions ne peuvent étancher notre soif. Autrement dit, ces passions sont un peu comme des tonneaux sans fond. Nous les remplissons sans cesse, mais comme il n'y a pas de fond, ben, vous connaissez le résultat. C'est-à-dire que elles en réclament, si nous accordons aux passions qui sont en nous ce qu'elles demandent, plus nous accordons aux passions qui sont en nous ce qu'elles demandent, plus l'esclavage qui nous lie à elles augmente. Parce qu'elles sont des tonneaux sans fond. Jamais elles ne peuvent étancher notre soif. Qu'est-ce que c'est que cette soif ? C'est une soif d'absolu. Parce que nous avons été créés en vue d'un absolu. Et la chute, la dégradation de notre nature, les tuniques de peau, symbole de cette nature déchue et du péché qui est lié à cette nature déchue, n'a pas effacé en nous ce souvenir, cette soif d'absolu. Ça fait partie de notre constitution première. Et voilà, donc, il y a une soif, ça c'est dramatique, il y a une soif humaine que rien ne peut étancher dans cette direction. Il y a une soif de l'infini qui est détournée dans une direction où elle ne peut être assouvie. Vous voyez, c'est ça tout le drame de la nature déchue. Et tout ce que l'homme peut trouver dans ce domaine-là, que ce soit tout ce dont témoigne l'histoire humaine, tout cela, rien, absolument rien, de ce qui est d'ordre passionnel, au sens où nous l'entendons, bien sûr, ne peut étancher la soif d'absolu de l'homme. Parce que travailler pour satisfaire ses passions, non seulement ça ne mène à rien, mais c'est surtout ça mène au néant, ça mène au néant de la mort. Ça mène au néant de la mort, tout simplement. Ça ne mène pas à la vie, ça mène à la mort. À ce propos-là, par exemple, quand Saint Nil d'Ascète parle de la gastrimargie, je vais revenir sur ce que ça signifie, enfin je peux déjà dire un mot là-dessus, c'est-à-dire que la gastrimargie, c'est cette cette passion qui consiste à prendre son ventre pour son Dieu. Donc, bien sûr, nous avons une affection qui fait que dans notre nature, nous devons satisfaire un certain nombre de besoins physiologiques, notamment celui de la nourriture qui est nécessaire à notre préservation. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Ça, c'est, on va bien au-delà. La gastrimargie, c'est ce qui fait que, pour un homme, son ventre est son Dieu. C'est-à-dire que, bon, on voit très bien que si on est dans cette configuration passionnelle, eh bien, on ne trouve jamais satisfaction. Je veux dire, c'est sans cesse qu'il faut étancher cet appétit et qui ne mène nulle part, qui est mortifère en lui-même. Et Saint Nil Lassède dit à ce propos, la nature devenue esclave du péché, je cite, expédie à l'estomac par le canal profondément creusé par la gloutonnerie toute nourriture, comme dans une mer que rien ne saurait remplir. Voilà. Et ça, c'est ce que, quand nous sommes dans le schéma de satisfaction des passions, d'étancher notre soif d'absolu qui est détournée dans cette satisfaction des passions, eh bien, cette image de remplir dans une mer que rien ne saurait remplir, elle est tout à fait adaptée. Elle est tout à fait adaptée. Il n'y a jamais de limite dans cette perspective. D'où l'expression de saint Maxime le Confesseur qui dit que l'homme des passions, eh bien, sa seule préoccupation, c'est le néant. Pourquoi ? Parce que en donnant satisfaction aux passions, on ne peut étancher sa soif d'absolu. Si on le croit, c'est une illusion profonde et expérimentalement, on le sait. Expérimentalement. Tout homme, toute femme honnête qui s'examine intérieurement sait que en payant le tribut à ses passions, il ne peut étancher sa soif d'absolu. Si quelqu'un me dit le contraire, là, je serais vraiment très étonné, quel que soit par ailleurs, qu'il soit dans la foi chrétienne ou pas. Alors, ces passions, elles sont liées aux objets. Fondamentalement, elles sont liées aux objets, c'est-à-dire que aux objets de l'ordre de la création vivante, aux objets qui sont des êtres de raison, c'est-à-dire des créations de l'intelligence humaine. Fondamentalement, les passions sont liées aux objets. Et il y a une catégorie de ces objets qui sont les êtres vivants eux-mêmes. Et notamment dans la passion de luxure, l'autre est chosifié, est réduit à un objet dont je peux tirer jouissance ou satisfaction. Voilà. Ce n'est plus une hypostase vivante qui est en face de moi, c'est un objet dont je peux disposer. C'est valable non pour les êtres vivants comme pour les objets inanimés. Les passions sont toujours orientées vers cette dimension d'objet. Et quand il s'agit des vivants, évidemment, nous nions radicalement l'hypostase des êtres. Si je prends un être humain comme objet pour satisfaire une passion, je le nie en tant qu'hypostase créée par Dieu. Je nie le mystère de son être, je le réduis, je le chosifie, je le réduis à un objet dont je vais tirer un quelconque plaisir ou un quelconque bénéfice. Voilà. Alors pourquoi il y a cette soif infinie dans les passions ? à cause de la constitution de l'être humain qui est créé à l'image, à la similitude ou à la ressemblance, et donc qui a soif d'infini, puisque c'est dans sa nature créée elle-même. Mais au lieu d'être orienté vers cet infini authentique, spirituel, eh bien, il l'applique aux objets du monde fini. C'est dramatique. C'est dramatique. Au sens propre du terme, c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est un fourvoiement total, intégral. Parce que il faut se rappeler que dans sa nature première, l'homme est créé comme étant capable de Dieu. C'est Saint Nicolas Cabasillas qui le rappelle. Le cœur de l'homme, le cœur profond de l'homme, eh bien, pour l'imiter qu'il soit, il est en capacité de recevoir le trône du Christ. Il est un trône sur lequel le Christ veut siéger. S'il est purifié, bien sûr. Et voilà, donc, cet homme qui est capable de Dieu, eh bien, par sa nature déchue, il veut étancher sa soif en cultivant ses passions, et c'est une œuvre complètement mortifère. Et c'est pour ça que Saint Maxime le Confesseur dit « Le mal, bien, c'est un mouvement irrationnel. » Mouvement irrationnel. Des facultés spirituelles vers autre chose que leur but final. Mouvement irrationnel des facultés spirituelles vers autre chose que leur but final. Et tout cela, donc, s'est fondé sur un jugement erroné, nous dit le père de notre groupe. Et cette soif d'infini qui est dans l'homme, qui est pourtant une nature finie, hein, c'est paradoxal simplement en apparence, c'est-à-dire que l'homme est une créature de Dieu, donc c'est une nature finie, qui a un commencement et qui a une fin. Originellement, cette fin le mène à une transformation et à l'immortalité, mais là, à cause de la nature déchue, il hérite de la mortalité, mais avec la promesse du Christ, cette mortalité, elle est vaincue, non seulement avec la promesse, mais avec la mort vivifiante et la résurrection du Christ, cette mort, elle a été vaincue. Et il y a cette promesse qui s'y attache, puisque, comme le dit saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, le Christ, il est le premier-né d'entre les morts, donc il est le prémisse de la résurrection des morts. Il est le premier ressuscité, prémisse de la résurrection de ceux qui s'attachent à lui. Donc, cette nature finie, elle est pourtant habitée d'une soif d'infini. Eh bien, là, c'est le signe que nous sommes, selon notre nature première, en capacité de communion avec Dieu. Mais cette capacité, nous l'avons perdue à cause du péché, à cause de la nature déchue, et cette capacité, nous la retournons. Non pas dans un sens lumineux, mais dans un sens ténébreux, mortifère, vers les choses finies, vers les créatures finies, vers les objets finis. Eh bien, de cette manière, nous retournons notre propre nature contre nous-mêmes. Et cette passion, ces passions, elles s'apparentent à une course effrénée à travers le monde, parce que l'homme n'est plus centré vers Dieu, mais vers le monde fini. Et toute l'histoire humaine est là. L'histoire humaine dans le monde déchu, dans ce monde. Vous savez que l'apôtre évangéliste saint Jean a deux vocables. Le monde, qui est une créature bonne, puisque c'est une créature de Dieu, et ce monde qui est le symbole de la révolte contre Dieu. Eh bien voilà, cet homme qui s'est désaxé, décentré qui s'est retourné, eh bien, il cherche l'infini dans le monde fini. Là où il risque pas de le trouver, là où il risque simplement de trouver le néant. Autrement dit, ça veut dire aussi que la passion, c'est une énergie qui est fondée sur l'égoïsme, qui est centrée sur le moi de l'homme, qui traduit en acte la volonté de l'homme que tout lui soit soumis. L'homme qui, à ce moment-là, n'est soumis à personne. L'homme qui est la mesure de tout. L'homme qui est la mesure de lui-même et qui réclame, par l'exercice passionnel, qui réclame que tout lui soit soumis. Ça veut dire, entre autres, que tout ce qui est autour de lui lui est hostile, parce que s'il a besoin de soumettre ce qui est autour de lui, il introduit de fait avec ce qui est autour de lui non plus un rapport d'harmonie, mais un rapport de disharmonie, de guerre, de lutte, d'hostilité avec tout ce qui l'entoure, hein, avec tous ceux qui l'entourent, tous les vivants qui l'entourent, sans exception. Et à ce moment-là, son unique préoccupation, eh bien, c'est le monde des objets, le monde fini. Voilà. Ici, très volontairement, il s'ampute de toute sa dimension la plus haute. Il se réduit à une forme d'animalité, et même pas d'animalité, parce que les animaux obéissent à la loi divine par leur instinct. Bon, il se réduit à une espèce d'infra-animalité, à quelque chose de très profondément ténébreux, parce que lorsque l'un homme se désaxe de son orientation vers Dieu, eh bien, c'est les ténèbres qui parlent en lui. Et bon, la lutte ascétique, justement, la lutte pour la purification des passions, c'est justement de se réaxer vers Dieu et de se débarrasser progressivement par l'effort, mot ascèse, c'est l'effort, par l'effort de se défaire de tous ces ténèbres qui nous habitent. Et je voulais dire encore que Saint Maxime le Confesseur dit quelque chose de très intéressant auquel on n'est pas forcément habitué. Il dit que la passion, c'est quelque chose d'intrinsèquement irrationnel. Parce que la raison, c'est pas la folle du logis. Laissons cela à d'autres, c'est Luther qui disait que la raison, c'est la folle du logis. Mais dans la théologie orthodoxe, dans la tradition orthodoxe, qui remonte aux apôtres et toute la légion des pères de tous les siècles, il n'en est pas ainsi. Donc la passion, par le retournement qu'elle opère des énergies divines qui avaient été mises dans la nature première de l'homme, par le retournement ténébreux qu'elle opère, eh bien, elle est profondément irrationnelle. De la même manière, d'ailleurs, que l'athéisme, c'est quelque chose d'irrationnel. L'athéisme, c'est quelque chose d'irrationnel, oui. C'est peut-être dur de dire ça, parce que l'athéisme est très dominant aujourd'hui dans notre monde. Mais il est irrationnel. Et ce n'est pas une nouveauté, ça. Dans la tradition biblique, c'est déjà dit, hein, au psaume 13, il est dit « l'insensé ». L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Parce que l'athéisme, il manifeste justement ce désaxement, ce détournement de l'homme de ce pourquoi il a été créé, ce en vue de qui il a été créé. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que Saint Maxime dit que la passion est quelque chose de profondément irrationnel. Et comment se manifeste son irrationalité ? Eh bien, par le fait que l'homme des passions, eh bien, il cherche avec toujours plus de force à répondre à son aspiration à l'infini au moyen des choses finies, donc des choses transitoires, passagères, qui ont un commencement et une fin. Et ça, c'est profondément irrationnel. Si on y réfléchit un petit peu, c'est profondément irrationnel, ça. Et parce que la raison de droite, elle nous guide vers autre chose. C'est pour ça que Saint-Maxime dit que c'est irrationnel. Et il a tout à fait raison. Et je pense qu'il faut garder ça présent à l'esprit. Alors, si les passions sont irrationnelles, elles sont aussi illusoires. Pourquoi elles sont illusoires ? Parce qu'elles nous détournent de notre fin véritable. Ce pourquoi nous avons été créés. En venant dans ce monde, en tant qu'être créé, nous sommes créés en vue d'une fin. Et justement, la nature déchue, la nature passionnelle, eh bien, elle nous détourne de cette fin. Donc elle est illusoire, parce que tout ce qui ne va pas dans le sens de cette fin travaille pour le néant, donc travaille pour une illusion. Le premier objectif, donc, de cette lutte ascétique, c'est d'opérer un véritable salut de l'homme, d'abord de son aveuglement. D'abord de son aveuglement. Parce que cette idolâtrie des passions, elle s'apparente à un aveuglement. Non, mais pardonnez-moi, je me trompe, elle ne s'apparente pas, elle est un véritable aveuglement. Ce n'est pas autre chose qu'un aveuglement. Et donc, le premier objectif de cette lutte ascétique, toute la tradition ascétique est unanime à ce propos, c'est de réorienter l'homme vers sa véritable finalité. De le remettre dans l'axe, de libérer son intelligence de l'asservissement à ses passions, donc de l'asservissement au monde, à ce monde qui est le symbole de la révolte contre Dieu. De libérer son intelligence de la tyrannie des passions, parce que ça c'est un autre aspect. J'ai parlé tout à l'heure d'esclavage, mais évidemment, tyrannie et esclavage, c'est lié. Celui qui est esclave, il est entre les mains d'un tyran. Mais cet esclavage, comme les passions sont comparables à un tonneau sans fond, cet esclavage, il est de plus en plus tyrannique. Et cette réorientation dans la lutte ascétique, cette réorientation comme premier objectif de cette lutte ascétique vers la véritable finalité de l'homme, eh bien, elle s'apparente aussi à une libération de cette tyrannie, de cet esclavage. Et là, donc, interviennent une nécessaire description des huit passions fondamentales qui habitent l'homme. Alors, dans la tradition ascétique, on trouve ça déjà chez Évagre le Pontique, mais aussi chez d'autres auteurs, et on trouve également, si on est attentif, parce qu'elles ne sont pas énoncées sous forme de liste, mais on trouve ça aussi dans l'Écriture. Hein. Je rappelle que tout ça est souché sur la parole divine. Hein. Donc, on en retrouve la mention. Je vais simplement là les nommer, mais on y viendra donc au prochain cours. Il s'agit donc... Il s'agit des huit passions fondamentales la gastrimargia, la gastrimargie, la porneia, la luxure, la philargia, giria, l'avarice, la lupée, la tristesse, l'orgueil, la colère, l'acédia, l'acédie, la kénodoxia, la sénodoxie et l'orgueil. Bon, gastrimargie, luxure, avarice, tristesse, colère, acédie, sénodoxie, orgueil, qui ont pour racine l'amour de soi, la philotie. Alors, on va voir en détail la prochaine fois ce que ça recouvre, mais ce qu'il faut garder déjà, d'ores et déjà présent à l'esprit, c'est que toutes ces passions, dans l'enseignement de la tradition ascétique, toutes ces passions sont liées entre elles. Elles interviennent à l'intérieur de l'homme, placées dans des situations différentes, dans des circonstances différentes, à des âges différents, de plusieurs manières, mais elles sont toutes liées entre elles. Et il y en a trois qui sont fondamentales, et les cinq autres en découlent. Voilà, donc je vous laisse en appétit, si j'ose dire, et on verra ça à la prochaine leçon. Et on verra surtout comment, à partir de la nomination de ces huit passions fondamentales, des principales et des subordonnées d'entre elles, et comment elles sont suggérées au cœur de l'homme, comment elles entrent progressivement en l'homme, et comment elles se traduisent en actes, comment elles s'accomplissent en actes dans l'homme. Voilà, merci de votre attention.